Les informations sont présentées par Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le Rwanda commémore ce week-end le 25e anniversaire du génocide des Tutsis qui a coûté la mort à plus de 800 000 personnes. Un massacre dans lequel la responsabilité de la France n'est pas encore clairement établie. Emmanuel Macron a promis l'ouverture des archives aux chercheurs ainsi que le renforcement des moyens judiciaires pour traduire les responsables en justice. Pourtant, le chef de l'État ne sera pas présent au Rwanda demain pour les commémorations. Il sera représenté par le député LREM Hervé Berville, un orphelin d'origine rwandaise, adopté en 1994 par une famille française. L'absence du président de la République, Bertrand Galichet, témoigne d'une gêne persistante de la France à l'évocation du génocide.
Ce 25e anniversaire du génocide rwandais aurait pu solder le contentieux entre Paris et Kigali. Depuis un quart de siècle, Paul Kagame accuse la France d'avoir été complice du régime Hutu, en place à l'époque du génocide qui a fait 800 000 morts. Mais s'il était venu à la commémoration, Emmanuel Macron aurait été confronté à la question des excuses de la France. Le journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique.
Emmanuel Macron ne se rend pas à Kigali, c'est beaucoup plus pour des problèmes intérieurs français vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités politiques qui avaient été mises en accusation par le Rwanda, en particulier de la période Mitterrand, plus un certain nombre de militaires français qui sont vent debout en pensant que la France n'a pas à s'excuser de ce qu'elle a fait au Rwanda.
Un empêchement de politique intérieure qui ne remet pas en cause le rapprochement franco-rwandais initié par Emmanuel Macron. En mai 2018, Paul Kagame était reçu à l'Elysée et dans la foulée, la France décidait de soutenir la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la présidence de la francophonie. Fin décembre, dans l'enquête sur l'attentat qui avait déclenché le génocide de 1994, la justice française avait rendu un non-lieu au bénéfice de plusieurs proches de Paul Kagame.
Bertrand Galichet. En Libye, la communauté internationale demande au général Haftar de renoncer à avancer vers Tripoli. L'ONU et le G7 appellent au calme alors que les affrontements ont repris hier entre les forces de Haftar et les forces loyalistes. Le G7 qui se réunit en France. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères sont en Bretagne, à Dinard, pour évoquer un nouvel enjeu démocratique, le développement de l'Internet et toutes les questions sécuritaires qui en découlent, Nathanaël Charbonnier.
C'est le nouveau terrain de guerre des années 2000, l'Internet, bien loin des guerres classiques. Les fusils ont des claviers, les bombes explosent des disques durs et les rumeurs ont la forme de fake news en tout genre. Cyberattaques, désinformation, ingérence de pays dans les campagnes électorales. Pour le ministre Jean-Yves Le Drian, il faut maintenant réagir et mieux nous protéger. Car
la démocratie doit être capable, tout en respectant les principes de liberté d'expression, de prévenir les tentatives d'ingérence, d'endiguer les obstructions à la liberté de la presse et de réguler efficacement les manipulations de l'information.
Et pour y arriver, les sept entendent définir des règles à respecter, des normes à adopter, avec une question simple par exemple, doit-on faire confiance aux Chinois Huawei pour le développement de la 5G ? Alors certes, pour l'heure, il ne s'agit que d'un catalogue de bonnes intentions, mais c'est déjà cela, car comme le dit le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian,
je vais vous dire, G7 pluvieux, G7 heureux.
Et aucun doute, il pleut ce week-end en Bretagne.
Nathanaël Charbonnier. Le constructeur américain Boeing annonce réduire sa production mensuelle de 737 max, une baisse de 20%. L'avionneur s'attend à une potentielle prolongation de l'interdiction de vol de son avion. Un dispositif est toujours soupçonné d'être responsable des deux crashs aériens de l'Ethiopian Airlines du mois dernier et de la Lion Air il y a 5 mois. Au total, près de 350 personnes sont mortes dans ces accidents. Les États-Unis qui vont placer les gardiens de la révolution iraniens sur la liste des organisations terroristes. Une information rapportée par le Wall Street Journal. Les gardiens de la révolution disposent d'une unité d'élite, la force Quds, qui soutient les alliés de l'Iran dans la région, à savoir la Syrie de Bachar el-Assad ou le Hezbollah libanais. En France, 21e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, à Paris, deux manifestations sont prévues, notamment un cortège qui doit relier la place de la République au quartier de la Défense pour dénoncer l'évasion fiscale. Du monde est également attendu à Saint-Nazaire, c'est là que se déroulera la deuxième assemblée des assemblées pour tenter de structurer le mouvement. Manifestation prévue aujourd'hui à Turin, une mobilisation pour le projet Lyon-Turin. Une ligne ferroviaire toujours en suspens. Côté français, le projet est validé. Pas côté italien, où il divise sérieusement la classe politique. Le mouvement 5 étoiles y est opposé, à l'inverse de la Ligue. Le pays veut se laisser un peu de temps pour trancher, Mathilde Imberti.
L'Italie se donne 6 mois pour sortir ou non du projet. La coalition profondément divisée sur ce dossier n'a pas définitivement tranché. Les entreprises du Piémont y voient une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête et surtout au-dessus de leurs exportations. Dario Gallina préside l'Union industrielle de Turin. Il sera en première ligne dans la manifestation aujourd'hui.
Cela nous coûte énormément de transporter ainsi nos marchandises vers la France et le nord de l'Europe. Actuellement, nous ne pouvons pas mettre nos camions sur les trains. Donc c'est à la fois polluant et très coûteux. On espère que le gouvernement ne va pas revenir sur une décision prise il y a des années.
Le patronat français viendra prêter main forte en manifestant ce samedi à Turin. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes est annoncé, des représentants du monde économique et Stéphane Gugino, délégué général du comité pour la transalpine Lyon-Turin.
La loi d'orientation des mobilités qui vient de passer au Sénat reconfirme encore l'engagement de la France sur la réalisation de cette infrastructure. Et aujourd'hui, c'est du côté italien que la menace pèse. Les appels d'offres ont été lancés, des avis de marché, mais les deux gouvernements font un point d'étape au mois de septembre pour acter définitivement la poursuite du chantier.
Un tunnel de 57 km doit être creusé dans les Alpes pour transférer une partie des marchandises des camions vers le rail. Pour les opposants au Lyon-Turin, il s'agit d'un projet inutile et coûteux. Dans la vallée italienne où le tunnel serait creusé, on fait valoir aussi des dommages à l'environnement liés à ces grands travaux.
Mathilde Imberti. La justice ouvre la voie à une réparation plus large des victimes de l'amiante. La Cour de cassation a reconnu hier la possibilité d'indemniser le préjudice d'anxiété de tous les travailleurs exposés à ce matériel. Préjudice qui permet d'indemniser les personnes qui ne sont pas encore malades mais qui s'inquiètent de le devenir. Le temps de ce samedi perturbé sur l'ouest du pays. Un temps pluvieux avec des orages parfois accompagnés de rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Ailleurs, le soleil restera voilé. Les minimales de 0 à 7 degrés en général ce matin, 6 à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales vont de 15 à 20 degrés sur le quart nord-est, de 10 à 16 degrés par ailleurs.